Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Lundi 4 mai 2026, il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab. Est-ce qu'il y a des cinéphiles autour de la table ?
Oui.
Oui ? Un seul ? Non.
Un seul.
Ok. Bah, je vais m'adresser à toi alors. Est-ce que tu savais que le quotidien ActuRennes a eu la bonne idée de demander au directeur du cinéma rennais Larvor le top 4 des films à avoir vus selon lui ?
Eh bien non, je ne savais pas.
Je te les donne.
J'espère que t'as le top 4.
Verdict. En première place, It de Michael Mann, suivi par Sueur froide d'Alfred Hitchcock, un classique. Troisième position, À nos amours, un film de Maurice Pialat. Et enfin, Les apprentis de Pierre Salvadori. Dommage, il n'y a pas de réalisatrice dans le lot. Mais peut-être que t'en as vu certains, Lafken, non ?
Certains de ceux-là ?
Ouais.
Sueur froide, mais sinon j'aurais mis Pacific Rim, éventuellement, dans ton cas.
Ok, je pense que beaucoup de cinéphiles, pour le coup, vont se boucher les oreilles. Merci pour ton intervention. Sinon, si vous êtes adepte du 7e art, ne manquez pas l'émission ciné de Syllab En attendant Godard, tous les mardis à 19h. Tout de suite, le flash de Pacific Rim de Lafken.
L'étau du détroit d'Ormuz se resserre. Hier, Donald Trump a annoncé vouloir libérer les bateaux affiliés à des pays non impliqués dans la guerre. 15 000 soldats américains sont mobilisables à tout moment, selon la Maison-Blanche. L'Iran a répondu que toute intervention américaine serait une violation du cessez-le-feu, en vigueur depuis presque un mois. De leur côté, les dirigeants européens et canadiens se sont retrouvés aujourd'hui en Arménie afin de discuter de la situation internationale. En plein conflit économique avec Donald Trump, l'Allemagne a demandé cet après-midi à l'Iran de négocier la fin de la guerre avec les États-Unis. Une grave situation médicale dans l'Atlantique. Hier, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé la mort de 3 personnes à bord du navire de croisière MV Ondius. En parallèle, 3 autres individus ont été évacués et nécessitent des soins d'urgence. En cause, un possible foyer d'antivirus, une maladie transmise à l'humain par les rongeurs, pouvant entraîner des détresses respiratoires et cardiaques. Pour rappel, les antivirus transmissibles entre êtres humains restent extrêmement rares selon l'OMS et l'Office fédéral de la santé publique suisse. À bord du navire, des mesures d'isolement et de surveillance ont été mises en place. La commission d'enquête sur l'audiovisuel public était-elle neutre ou financée ? Samedi, l'association AC Anticorruption a visé le député ciotiste Charles Alloncle en déposant plainte pour prise illégale d'intérêts et trafic d'influence passif. Le groupe Lagardère, propriété du milliardaire Vincent Bolloré, est quant à lui visé pour trafic d'influence actif. Selon des révélations du Monde, le rapporteur Charles Alloncle a reçu du groupe Lagardère une liste de questions à poser lors de la commission. Alors que son rapport devrait être publié dans les 24 heures, le député de droite dément toute accusation. Jean-Luc Mélenchon, dans les starting blocks, se lance dans la course à l'Élysée. Le leader de la France insoumise a annoncé hier soir aux 20h de TF1 être candidat à l'élection présidentielle pour la 4e fois. Mais cette nouvelle candidature ravive immédiatement les fractures à gauche. Roman revient sur l'entrée en campagne du fondateur de la France insoumise.
Oui, je suis candidat, affirme Jean-Luc Mélenchon au micro d'Anne-Claire Coudray, une décision justifiée selon lui par le contexte et l'urgence. Pourtant, la dernière présidentielle, le fondateur de LFI laisse entendre vouloir passer la main en appelant les jeunes générations insoumises à, je cite, « faire mieux ». Hier soir, il est revenu sur cette position. Selon lui, le débat n'est pas plus de savoir qui serait, je cite, « le plus esthétique », mais qui est le mieux préparé pour faire face à la situation qui arrive. Il décrit un monde entré, je cite, « dans une saison très agitée de l'histoire ». Il a aussi insisté sur la division de ses adversaires, appelant au parrainage populaire autour de sa candidature. Enfin, le leader insoumis a apporté quelques détails sur son projet de Nouvelle France et la promesse d'une 6e République pour refonder les institutions. Parmi eux, une police, dit-il, davantage rapprochée de la population, une France plus offensive diplomatiquement sur la scène internationale, notamment au Moyen-Orient, et sur le pouvoir d'achat, le retour de sa proposition de blocage des prix des carburants.
Et comment a été accueillie cette nouvelle auprès de ses sympathisants et sympathisantes ?
Elle n'a pas provoqué de vague d'enthousiasme à gauche, même dans son bastion de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête en 2022. L'accueil reste mesuré. Selon des témoignages de France Info, certains et certaines saluent encore son charisme et son statut de figure incontournable de la gauche. Mais pour d'autres électeurs et électrices, Jean-Luc Mélenchon semble aujourd'hui trop clivant, trop radical, parfois même usé. Et son retour agace aussi celles et ceux qui espèrent un renouvellement. Autre reproche qui revient dans ces témoignages, celui d'une candidature solitaire. En repartant seul, certains et certaines sympathisants et sympathisantes estiment qu'il reprend le risque de rejouer le scénario bien connu d'une gauche divisée et absente du second tour.
Peux-tu nous rappeler d'ailleurs son positionnement à la dernière élection présidentielle ?
En 2022, la France Insoumise avait rassemblé 21,95% des suffrages au premier tour. Elle est arrivée en troisième position derrière le Parti Renaissance d'Emmanuel Macron et le Parti du Rassemblement National de Marine Le Pen. Un score historique pour Jean-Luc Mélenchon, mais surtout une grosse frustration. Il avait échoué à environ 400 000 voix seulement de la qualification au second tour. Un résultat nourrissant aujourd'hui sa conviction d'être encore le mieux placé pour porter la gauche en 2027. Et face à lui, il désigne déjà son principal adversaire, le Rassemblement National. Je cite « C'est mon adversaire principal puisqu'il paraît qu'il va gagner », affirme-t-il, avant d'ajouter « Je ne crois même pas qu'ils seront au second tour. Nous allons les battre à plate couture ».
Et plus largement, où en est la course à la présidentielle de 2027 aujourd'hui ?
Cette entrée en campagne de Jean-Luc Mélenchon intervient dans une présidentielle pour l'instant largement dominée par le Rassemblement National. Selon un sondage Toluna Harris Interactif publié ce lundi, si le RN choisissait Jordan Bardella comme candidat, il recueillerait 34 à 35% des intentions de vote au premier tour. Dans l'hypothèse d'une candidature de Marine Le Pen, le taux serait mesuré entre 32 et 33%. Derrière le RN, c'est Édouard Philippe, du parti Horizon, qui apparaît comme le mieux placé dans le camp présidentiel avec 19% des intentions de vote. Autre figure du bloc central, Gabriel Attal de Renaissance, lui reste plus en retrait avec 14%. Côté républicain, Bruno Retailleau oscille entre 9 et 13% des intentions de vote, mais reste loin derrière des favoris. À gauche, aucun candidat ne s'impose pour le moment. Jean-Luc Mélenchon, pour la France Insoumise, plafonne autour de 12%. Il est talonné par Raphaël Glucksmann, chef de file de place publique, avec 11% des intentions de vote.
Des sondages qui donnent une première idée du futur paysage politique, mais à un an de l'élection présidentielle, ces chiffres peuvent encore beaucoup bouger. En se déclarant si tôt, Jean-Luc Mélenchon met déjà la gauche sous pression. Ses concurrents et concurrentes, toujours divisés, sont désormais poussés à accélérer pour éviter d'être distancés. Bouygues joue la carte de la séduction. Aujourd'hui, le groupe Bouygues a annoncé recruter plus de 8000 personnes en France cette année et 10 000 à l'international. Si l'opérateur justifie ses créations de postes par des projets de construction ou de transition énergétique, le moment est bien choisi. Depuis le 17 avril, Free, Orange et Bouygues négocient le rachat de SFR pour 20,35 milliards d'euros. En contestation, plusieurs syndicats ont appelé les 2000 salariés de SFR à faire grève ce week-end. Le Lion a mangé l'hermine. Hier soir, le Stade Rennais a affronté l'Olympique Lyonnais tous les deux en course pour le podium de Ligue 1. Malgré une égalisation 2-2 à la 49e minute du match par Esteban Lepol, les Rouges et Noirs ont fini par se faire devancer. Résultat 4-2 pour Lyon et Rennes toujours 5e du classement. Si la Ligue des Champions semble loin pour le Stade Rennais, il lui reste l'espoir du top 6 et de la Ligue Europa. Pour le savoir, rendez-vous dimanche prochain face au Paris FC. À Rennes, un village pas comme les autres a pris forme le temps d'un week-end. À l'occasion de la fête des possibles, Alternativa Rennes a réuni une centaine d'associations engagées sur le mail François Mitterrand, un espace ouvert, vivant, pensé comme un marché d'idées et d'initiatives, reportage de Ulrich au cœur du village des possibles.
Ce samedi, nous sommes sur le village des possibles de Rennes. Le temps est merveilleux sous un chaud soleil qui n'a pas émoussé les ardeurs sur le village. Les stands se font face, alignés comme dans un marché à ciel ouvert. Entre les allées, le public circule librement, s'arrête, échange et derrière chaque stand, des bénévoles engagés, prêts à expliquer, convaincre et sensibiliser. Marité est de l'association Bretagne Équitable.
On fait des interventions dans les écoles, dans les collèges, les lycées, auprès des étudiants aussi. Et aussi tout public, comme aujourd'hui, pour expliquer les critères du commerce équitable et le pourquoi du commerce équitable par rapport au commerce conventionnel.
L'ambiance est à la fois simple et vivante. Ici, une association présente des alternatives écologiques du quotidien. Là, c'est une autre qui met en avant des actions de solidarité locale. Plus loin, des initiatives citoyennes invitent à repenser les modes de consommation et d'organisation sociale. Zélia est de Rennes Métropole.
Alors aujourd'hui, on présente surtout la programmation du Printemps Citoyen, qui est un programme événementiel qui se déroule sur un mois et demi sur toute la métropole rennaise. Et il y a plus d'une centaine d'actions gratuites, ouvertes à tous, qui sont proposées par des associations, des groupes d'habitants, des maisons de jeunes, donc plein d'acteurs associatifs aussi, et de la société civile autour de la transition écologique et de la citoyenneté. Donc si vous allez sur lafabriquecitoyenne.fr, vous allez trouver toute la programmation du Printemps Citoyen et on vous encourage à regarder et à venir voir ce qui s'y passe.
L'Observatoire des médias Acrimed est aussi sur ce village associatif. Joseph, qui en est un membre, explique la présence de cet organisme connu pour ses critiques des médias.
On profite du festival pour faire connaître l'association, ou mieux connaître pour les gens qui connaissent un petit peu. Beaucoup de gens ont déjà lu des articles, ont déjà vu soit le film Les Nouveaux Chiens de Garde, soit connaissent la carte des médias qui possèdent quoi. Mais ça permet d'avoir un échange et de parler d'une soirée qu'on va faire au mois de juin. On invite les gens à cette soirée-là, on les incite à s'abonner à notre revue, à s'intéresser à la question des médias en général, quoi.
Pour Alternativa Rennes, l'objectif est clair: rassembler des acteurs du changement, créer du lien et montrer que des alternatives existent déjà, ici et maintenant.
Cette année, on a essayé de donner un peu une couleur un peu plus politique, on va dire, au festival, en organisation quatre parcours thématiques. Un sur la lutte contre l'extrême droite, un sur les alternatives face au système, la politique locale, c'est fantastique, et l'interconnaissance associative. L'idée, c'est d'aborder un peu ces quatre thématiques au travers d'associations qu'on a spécifiquement invitées, et de tables rondes, d'animations, de conférences pendant les deux jours.
Le village des possibles porte bien son nom, un lieu où les initiatives se rencontrent et où les idées prennent forme. Rendez-vous à la prochaine édition avec la même chaleur et la même ambiance.
Un reportage d'Ulrich Zinsou. Et avis aux chevaliers et aux chevalières de Bretagne, vendredi, la promenade des portes mordelaises à Rennes a rouvert, 8 ans après le début du chantier, une restauration qui a nécessité une enveloppe de 5 millions d'euros. Désormais, il vous est donc possible de longer les vieux remparts rennais à proximité de la place des Lys, un nouveau chemin dans le centre-ville applaudi par la maire socialiste Nathalie Appéré. Douves, pont-levis, boulevard d'artillerie, une chose est sûre, la construction du 15e siècle ne laissera pas les Rennaises et les Rennais de pierre.
C'est ainsi que se clôt le dernier flash de l'AFKEN pour cette année. Merci à toi.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Elle est grand sourire et elle va nous faire une belle interview ce soir. À toi, Estelle.
À Rennes, chaque week-end de printemps, un festival fait vibrer les planches de la paillette, les envoler. Plusieurs amateurs et amatrices montent sur scène pour présenter des créations qu'ils ont construites tout au long de l'année. Les Envolées, c'est un festival où la scène devient un véritable espace d'expression ouvert à toutes et à tous. Pour en parler, Aude Chalemel du Rosier, habillée d'une chemise à carreaux superposée d'un gilet gris, programmatrice ado-adulte et coordinatrice des pratiques amateurs chez La Paillette, à notre micro. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, pour expliquer un peu l'origine du festival Les Paillettes, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce festival ?
Alors, j'ai pas l'historique de la naissance du festival, parce qu'il est né, c'est la 44e édition, donc je n'étais pas là à l'époque. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est un festival qui garde la même substance depuis toutes ces éditions. L'idée, c'est de mettre en avant les créations des pratiques en amateur, encadrées par des intervenants et intervenantes, metteurs en scène ou comédiens professionnels. Donc c'est un peu le fer de lance de La Paillette sur ces espaces de création qui ont lieu tout au long de l'année. Et donc une trentaine, je dirais, de groupes de théâtre peut-être, se succèdent tout au long de l'année pour répéter avec des intervenants, des intervenantes, et puis nous proposent ce festival de création.
Et comment on peut rejoindre le festival en tant qu'artiste amateur, amatrice ?
Alors, comment on peut rejoindre le festival ? En fait, il faut être adhérent à La Paillette, s'inscrire à un atelier qui, généralement, est un espace de travail hebdomadaire. On a quelques formats en week-end, mais c'est essentiellement un format hebdomadaire. Donc, on s'inscrit à partir du mois de juin. Au mois de septembre aussi, c'est possible. Mais en tout cas, à partir du mois de juin, les inscriptions sont ouvertes. On rejoint un espace d'atelier. Et puis, toutes les semaines, on vient répéter avec son groupe pour créer cet espace cet espace d'expression-là qui a lieu pendant les envolées.
Donc il faut déjà être un groupe ou on peut intégrer un groupe ?
Non, on peut intégrer un groupe. C'est pas des troupes amateurs, c'est vraiment des individus qui se retrouvent en collectif, enfin, des individualités, je dirais, qui se retrouvent en collectif pour former ce groupe-là, qui est un groupe éphémère qui dure une année. Et puis, d'une année sur l'autre, il y a des entrées, des sorties. Il y a des groupes qui se connaissent depuis une dizaine d'années. Et puis, avec leur lot d'entrées et de sorties. Et puis, d'autres qui sont tout frais de cette année.
Et donc, cette année, c'est la 44e édition, comme vous l'avez dit. Et le fil rouge est Outre-mer. Donc, pourquoi avoir choisi ce thème en particulier ?
Alors, ça fait 3 ans, c'est la 3e année qu'on propose une thématique commune à tous les ateliers. Pourquoi on a choisi cette thématique-là ? Parce qu'en fait, on constate que les auteurs, autrices des territoires ultramarins ne sont pas absolument pas entendus, enfin très peu entendus en tout cas, ni les récits de ces territoires-là. Donc en fait, on a décidé de proposer un espace, y compris pour nos adhérents, adhérentes, de s'emparer et de connaître, d'apprendre à connaître ces écritures-là, ces récits-là, qui ont besoin d'être entendus aujourd'hui, puisqu'ils nous apportent une diversité de paroles et de points de vue sur le monde, je dirais. Donc c'est aussi important de les entendre. C'est vraiment un espace où l'idée, c'est pas du tout que nos adhérents réno-rennais incarnent, je dirais, les figures, ces personnages ultramarins, mais vraiment soient passeurs de paroles et de récits à travers leur mise en scène.
Et du coup, comment ils se sont appropriés ces paroles ?
Alors, il y a eu différentes... En fonction des ateliers, c'était assez différent. Il y a des intervenants, intervenantes, metteurs en scène qui ont choisi un texte de départ qui a été écrit par un auteur ou une autrice ultramarin. Et donc, c'est vraiment ce texte-là qui monte. Il y en a d'autres qui ont proposé des espaces de réflexion et d'écriture collective sur une thématique, sur un sujet. Alors souvent c'est emprunt, ça a très fort emprunt avec le colonialisme, mais ou l'histoire de ces territoires-là. Et donc ils ont travaillé ensemble, ils ont fait des enquêtes, de la recherche documentaire à travers des écrits de théâtre ou pas d'ailleurs, et ils ont écrit eux-mêmes leur spectacle.
Parce que oui, on peut retrouver la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, la Polynésie française ou encore le Groenland. Est-ce qu'il y a aussi des rencontres avec les locaux venant de ces régions-là ?
Alors, on n'a pas eu trop l'occasion de mettre ça en place cette année. Après, il y a des intervenants, intervenantes qui sont vraiment... qui travaillent eux-mêmes en compagnie à partir de ces thématiques-là, qui travaillent sur la créolité, par exemple. Et ça jalonne tout leur travail de création. Donc, ceux-là ont eu ont permis d'avoir un aspect documentaire, je dirais presque, auprès de leurs ateliers, vraiment, vraiment plus poussé. Et puis d'autres, ils se sont renseignés, ils sont allés voir des films, ils ont été voir des spectacles, ils ont lu beaucoup de textes, voilà, autour des sujets dont ils s'emparaient aussi à travers l'atelier.
Oui, il y a eu une réelle immersion de la part des participants.
C'est ça.
Et donc, pour comprendre un peu plus cette programmation de cette année 2026, comment elle s'est construite ?
Alors, en fait, on envoie tous les ans aux intervenants habitués de la paillette, mais aussi aux compagnies plus largement rennaises, ce qu'on appelle un appel à proposition. C'est-à-dire que les metteurs en scène, metteuses en scène nous envoient une intention sur le spectacle qu'ils ont envie de travailler, ou le sujet qu'ils ont envie de travailler sur la thématique qu'on leur propose. Donc du coup, ça se fait jusqu'au mois de mars de l'année précédente. Et à partir de ça, nous, on établit le calendrier des ateliers et donc le calendrier des envolées ensuite. Donc en fait, c'est vraiment les propositions que nous, on reçoit qui font la programmation derrière.
Et donc, il y a une multitude de pièces de théâtre.
C'est ça.
Est-ce qu'on va retrouver différentes formes de théâtre ou c'est plutôt une ligne traditionnelle ?
Non, on est plutôt sur une ligne traditionnelle de jeu, je dirais. Il y a très peu de marionnettes. Il y a Fanny Bouffort, par exemple, elle qui travaille beaucoup le théâtre d'objets et le théâtre paysage. Donc on va forcément retrouver cette patte-là, je dirais, dans le spectacle de son groupe. Mais on est plutôt sur du jeu de comédien, il y a très peu de marionnettes ou des choses comme ça. Par contre, on est sur une diversité d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des textes de théâtre, mais il y a aussi ce qu'on appelle de l'écriture de plateau, c'est-à-dire que l'intervenant arrive avec tout un tas de matières documentaires et de techniques, je dirais, de jeu. Il propose des improvisations et à partir de ces improvisations-là, la création du spectacle se tricote au fur et à mesure de l'année. Il peut aussi y avoir des propositions plus documentaires que d'autres, d'autres qui sont vraiment de la fiction, même si documentées, mais de la fiction. Voilà, on peut avoir cette diversité-là de propositions. Et puis là, cette année, avec la thématique, notamment chez les enfants, les intervenants d'atelier se sont emparés beaucoup de contes, ce qui est assez peu habituel pour les ateliers théâtre enfant habituellement à la Paillette.
Et donc certaines pièces comme, pardon si j'écorche le nom, Chilr RDCN,
ouais,
je ne sais pas trop comment.
Chlordécone, en fait, okay. C'est l'abréviation du chlordécone.
Ou Arctic existe en plusieurs versions, ouais, mais avec des troupes différentes. Est-ce que c'est une manière de montrer plusieurs regards sur un même sujet ?
Oui, c'est ça, c'est l'idée. On s'est posé la question quand on a reçu les propositions, effectivement, de ces deux textes qui étaient identiques pour deux groupes. Et en fait, on s'est dit que oui, ça allait dans le sens de la diversité et d'ouvrir un autre regard, et à la fois en termes de mise en scène, mais aussi de prise de parole.
Et il y a aussi beaucoup de spectacles qui sont portés par des enfants et des ados. Et comment eux, ils ont abordé le thème outre-mer ? Est-ce qu'ils ont une vision différente des adultes ?
Alors, les intervenants, c'est ce que je disais tout à l'heure, les intervenants ont plutôt pris la filière du conte, donc se sont emparés de contes traditionnels de différents territoires ultramarins. Plus que sur un texte spécifique. Parce qu'en fait, ce qu'on constate dans les auteurs-autrices de théâtre aujourd'hui, il y a assez peu de jeunes publics d'édités issus des auteurs-autrices ultramarins. L'édition est au-delà du théâtre, l'édition est très très mal représentée malheureusement dans ces territoires-là. Donc du coup, il y a assez peu de théâtres jeunes publics qui accèdent à l'édition, puisque en fait la majorité des maisons d'édition sont en hexagone et que voilà, le passage des frontières maritimes est difficile.
Et donc cette programmation, c'est majoritairement des pièces de théâtre, mais ça ne se limite pas que à ça, parce qu'il y a aussi de la danse avec le spectacle Côté cour ou Côté jardin de Alizé Marie Provost et Laurence Jiquel, mais aussi des auditions de piano de Jean Renaud ou encore une chorale Couleur paillette de Denis et Craig Schaeffer.
Schaeffer.
Ouais. Pourquoi autant cette ouverture ? Pourquoi mélanger toutes ces formes d'art ?
Alors, c'est un peu aussi un historique à la Paillette. On a effectivement, notre dominante, c'est le théâtre. On a aussi pas mal d'ateliers danse qui sont représentés. C'est à peu près 200 danseurs et danseuses qui jalonnent le studio de danse et qui foulent la scène pendant les envolées danse. Et puis, en musique et en chant, l'idée, c'est aussi d'avoir une diversité d'esthétiques et de pratiques de groupe, en fait.
Et il y a aussi la lecture à voix haute de, enfin, pochette surprise. Et qu'est-ce que peut s'attendre le public à ce moment-là ?
Alors, on n'est pas dans une mise en scène traditionnelle de théâtre, je dirais. Là, pour le coup, c'est des personnes qui sont au pupitre avec leurs textes. Alors, ils ont travaillé les textes, ils ne le découvrent pas. C'est une certaine forme de théâtre, je dirais. C'est un autre exercice, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas, on n'incarne pas les personnages de la même façon, on ne se répond pas de la même façon. Et donc, ils travaillent ça tout au long de l'année avec deux metteuses en scène qui sont Frédéric Mingan et Bérangère Lebacle, qu'on retrouve dans les ateliers théâtre aussi. Et donc, elles travaillent toute l'année justement sur cette technique très spécifique de la lecture à voix haute. Et donc, elles en donnent une lecture publique. Il y a deux lectures publiques dans l'année. Et la deuxième a lieu dans le cadre des envolées, dans une salle de spectacle plus petite que le grand plateau. Mais voilà. Et donc, les lecteurs, lectrices sont au pupitre. Et en général, ça donne à entendre les textes d'une autre façon. Et puis, on peut entendre plusieurs textes. Elles font des montages de textes. Elles ne lisent pas une pièce en entier. Elles font vraiment un montage de textes.
Et il y a aussi tout un événement tout le long du festival, qui est l'exposition Peinture fraîche. Comment l'outre-mer est représenté au cours de cette exposition ?
Alors là, ça, je ne saurais pas vous le dire comment ils ont. Je vais le découvrir en même temps que les visiteurs visiteuses. Ils ont travaillé tout au long de l'année. Je suppose que l'univers a balayé leurs ateliers, mais après sur les techniques en elles-mêmes, ça n'a pas influencé sur le cours pédagogique, je dirais, de l'année. Je pense qu'il y a des choses qu'on va retrouver, des univers qu'on va retrouver, mais ce sera la surprise.
Surprise ! Et après, on voit aussi des collaborations, notamment avec le collège Rosa Parks, ou sinon le conservatoire à rayonnement régional de Rennes. Et comment ces partenariats, ils enrichissent le festival ?
Oui, c'est un partenariat historique, que ce soit le conservatoire ou les classes à horaires aménagés théâtre. Avant d'être classe à horaires aménagés théâtre, au collège Rosa Parks, il y avait des options théâtre dont on était nous partenaires. Ils venaient systématiquement faire un stage à la Paillette et puis jouer leur représentation. Depuis que c'est devenu des classes à horaires aménagées théâtre encadrées par le conservatoire, ils continuent de venir jouer leur représentation, faire les restitutions de fin d'année sur le plateau de la Paillette. Là, pour le coup, eux, ils ne sont pas du tout en lien avec la thématique outre-mer. C'est vraiment les restitutions des classes à horaires aménagées théâtre.
Donc une programmation plutôt chargée qui balaye tous les week-ends de mai et juin presque. Juste pour finir, est-ce que vous pouvez nous teaser un peu la programmation de ce week-end ?
Ouais, je vais vous parler très rapidement de deux propositions. Je ne peux pas, malheureusement pas balayer tout. Ce fameux titre « Chlordécone trop beau pour y voir », c'est un texte de Béatrice Bienville qui est mis en scène par Jérémy Delaunay avec un groupe d'ateliers étudiants. Et en fait, le chlordécone, c'est un pesticide qui a été énormément utilisé dans les plantations de bananeraies et qui a empoisonné littéralement corps et terre pendant un certain nombre d'années. Et donc là, on retrace la vie d'une famille de paysans au moment du décès de l'oncle qui tenait la bananeraie et la petite nièce qui vit en Hexagone souhaite revenir en Guadeloupe pour reprendre l'exploitation, et sa grand-mère lui refuse en lui disant on s'est tous pollués avec ça, maintenant il faut passer à autre chose. Et la suite dans le spectacle. Et puis j'ai envie aussi de vous parler de In Waves, qui est un projet particulier qui est mené par Eric Antoine avec pareil un groupe d'étudiants. C'est l'adaptation d'une BD d'Al Dungo, en fait, sur l'histoire du surf. Eric, au-delà d'être comédien et metteur en scène, est passionné de surf. Et donc, du coup, il s'est emparé de cette thématique outre-mer, de cette ouverture-là, pour se dire, j'ai envie de faire découvrir cet univers-là, et l'histoire du surf, et l'impact sur l'impact culturel en Polynésie, de cette pratique-là. Donc ils ont démarré par aller faire un cours de surf en Bretagne, et puis ensuite ils ont adapté cette BD-là. Je pense que ça va être fort sympathique à découvrir.
En tout cas, merci Ocha Lemel du Rosier, programmatrice ado-adulte et coordinatrice des pratiques amateurs chez La Paillette. Pour rappel, le festival des envolées a lieu du 9 mai au 23 juin à la MJC de La Paillette. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations ?
Alors, on peut retrouver toutes les infos sur nos plaquettes qui peuvent circuler en ville et puis sur notre site internet www.la-paillette.net.
Merci.
De rien.
6 heures avant minuit.
Toute cette saison, elle nous a décortiqué des morceaux qu'on connaissait ou qu'on ne connaissait pas. On arrive à la dernière chronique, Play, Pause, Décrypte de Roman ce soir. Snip, snip. Et je crois qu'on s'attaque à un style qu'on n'a pas encore abordé, Roman.
Non, on va s'attaquer à un nouveau style et pour ça, on va aller en 2011. Le monde assiste à la révolution tunisienne, au drame de Fukushima, à la mort de Muammar Kadhafi et d'Oussama Ben Laden. En Arabie Saoudite, les femmes obtiennent pour la première fois le droit de vote, la technologie entre dans une nouvelle ère avec la création de Siri, et pendant qu'une génération entière dit adieu à Harry Potter avec la sortie du dernier volet des Reliques de la Mort, le film Intouchable s'apprête à marquer le cinéma français. Et quand le monde vacille, évolue et découvre, que raconte le reggae français ?
Aussi loin
que l'œil peut voir, je balade ma rétine sur les courbes de l'histoire.
Danakil, c'est un nom emprunté à un désert d'Éthiopie pour un groupe né sur les bancs d'un lycée des Yvelines au début des années 2000. À l'origine, Danakil, c'est une bande de copains bercés par Bob Marley et Steel Pulse, qui décident par passion de faire à leur tour du reggae. 20 ans plus tard, le groupe s'est imposé comme l'une des figures majeures du reggae français, des zéniths complets, deux Olympias et des tournées dans toute l'Europe. Mais si Danakil a marqué le paysage musical, c'est avant tout par ses textes. À l'écriture, Balik, le chanteur, impose une plume engagée, ancrée dans des réalités sociales.
Si je regarde bien, si je gratte à la porte, je vois se dessiner les traits d'une époque un peu triste, mais qui rêve de vivre et vit en rêve un équilibre que l'être humain lui enlève. Alors que faire quand les vents nous achèvent? Nos vies sont brèves lorsque la mer se soulève. Est-ce de ma faute si les volcans se réveillent, si la terre meurt d'être sèche ou elle se noyait la veille? Y a-t-il un avenir pour nos fils dans la ronde? Vivront-ils en paix? Devront-ils mener la fronde? À l'heure où les chefs ont des montres à 10 plaques, les enfants courent les rues et se lavent dans les plaques. Triste sort pour les héritiers du sort, les joies sont mal réparties, pire encore le sont les torts.
Dans Héritier du sort, Danakil pose un regard satellite sur le monde, mais il ne se contente pas de décrire une planète en crise. Le groupe met en parallèle deux réalités, d'un côté un monde instable presque chaotique, et de l'autre des inégalités entre les individus. Ce qu'il montre, c'est que, ces deux dimensions sont liées. Le désordre du monde n'est pas seulement naturel, comme ils le sous-entendent avec la mer qui se soulève et les volcans qui se réveillent, mais il est profondément social. Et en gros, dans le texte, ce qu'on dit, c'est qu'on ne part pas tous du même point de départ, et ce sont les plus pauvres qui subissent le plus durement les crises de par leur position sociale.
J'ai comme l'impression de rouler à contresens depuis des années, depuis ma naissance, entouré au plus près par l'amour et la douceur, mais rattrapé par la violence extérieure, une violence qui prend les jeunes au berceau, les corrompt, leur fait confondre le collectif et le perso perdu. L'âme du monde est à la peine, ne comptez pas sur l'église pour lui venir en aide, fatigué d'entendre le pape en Afrique clamer que l'amour de Dieu rejette le plastique, malade. Et cet écorché de la feuille incitant ses fidèles à mourir larme à l'œil, nourri d'un dormant deuil pour quelques mots.
Dans ce passage, Balik part de quelque chose de très personnel, ce sentiment d'aller à contresens pour s'élever progressivement vers un constat universel. La violence pour Danakil commence dans la rue d'à côté, se nourrit des institutions défaillantes et finit par engloutir la planète entière. Cette map monde qui se colore à l'encre noire, c'est l'image d'un groupe qui a toujours su transformer le chaos du monde en poésie engagée.
Merci Romane. Comme d'habitude, on écoute le morceau en entier à la fin de l'émission et je précise que toutes les chroniques de nos volontaires en service civique de cette année, donc Play Pause Décrypte de Romane, Ça t'embouche, un coin d'Estelle et On en a gros de l'Alken, seront réentendables tout l'été dans notre grille d'été. Et oui, pour ceux qui les auraient loupés. Et si on écoutait le répondeur, on a peut-être un message.
Ah, le téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Le répondeur est vide ce soir, mais n'hésitez pas, il est toujours temps de nous laisser un message au 02 30 96 25 35. Si vous voyez par exemple des pièces qui vous ont super plu pendant le festival des Envolées, bah racontez-nous tout ça. On diffuse ce que vous avez à nous dire à la fin de l'émission, 02 30 96 25 35. Merci Timothée pour la technique, à demain dans 6h avant minuit.
Que l'œil peut voir, je balade ma rétine sur les courbes de l'histoire. Même si ça semble dur à croire, la map monde se colore à l'encre noire. Si je regarde bien, si je gratte à la porte,
je vois se dessiner les traits d'une époque un peu triste, mais qui rêve de vivre et vit en rêve un équilibre que l'être humain lui enlève. Alors que faire quand les vents nous achèvent? Nos vies sont brèves lorsque la mer se soulève. Est-ce de ma faute si les volcans se réveillent, si la terre meurt d'être sèche ou elle se noyait la veille? Y a-t-il un avenir pour nos fils dans la ronde? Vivront-ils en paix? Devront-ils mener la fronde? À l'heure où les chefs ont des montres à 10 plaques, les enfants courent les rues et se lavent dans les plaques. Triste sort pour les héritiers du sort, les joies sont mal réparties, pire encore le sont les torts. Donne-moi une bouffée d'air pour leur couper l'herbe aux tueurs de liberté, les assaillir de verbe. Quelqu'un redonnera-t-il ses couleurs au monde noir et blanc qui se tord de douleur? J'y repense, assis sur ma falaise, voyant monter la marée aussi vite que le malaise. Aussi loin que l'œil peut voir, je balade ma rétine sur les courbes de l'histoire. Même si ça semble dur à croire, la map monde se colore à l'encre noire. Aussi loin que l'œil peut voir, je balade ma rétine sur les courbes de l'histoire. Même si ça semble dur à croire, la map monde se colore à l'encre noire. À contresens depuis des années, depuis ma naissance, entouré au plus près par l'amour et la douceur, mais rattrapé par la violence extérieure, une violence qui prend les jeunes au berceau, les corrompt, leur fait confondre le collectif et le perso. Perdu, l'âme du monde est à la peine, ne comptez pas sur l'église pour lui venir en aide. Fatigué d'entendre le pape en Afrique clamer que l'amour de Dieu rejette le plastique. Malade, et cet écorché de la feuille incitant ses fidèles à mourir larme à l'œil, nourri d'un dormant deuil pour quelques mots sains écrit sur quelques feuilles irresponsables. La croyance blesse dans les mauvaises mains qui la laisse devenir mère de la détresse. Quelques phrases pendant lesquelles mon cœur s'embrase, quelques phases quand la goutte fait déborder le vase. Ce monde est ainsi fait, entre le vice et le bonheur, la vertu et la peur, espérant des jours meilleurs. Je balade ma rétine sur les coupes de l'histoire. Même si ça semble dur à croire, la map monde se colore à l'encre noire. Aussi loin que l'œil peut voir, je balade ma rétine sur les courbes de l'histoire. Même si ça semble dur à croire, la map monde se colore à l'encre noire.
Il arrive précisément à leur prévue.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.